Europe 1, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Et vous les avez croisés tout l'été, le samedi et dimanche sur Europe 1, chanteuse, actrice, astronaute, elles viennent de tous les univers. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, spéciale Les Éblouissants, continue ce samedi 17 août avec Carla Bruni sur Europe 1.
Europe 1.
Bonjour Carla Bruni.
Bonjour Isabelle.
Alors Carla Bruni, quand votre premier album est sorti, tout le monde, mais absolument tout le monde a vanté la qualité de vos textes pour Libération, pour Le Monde, Le Figaro, Les Inrecuptibles. Un auteur était né. Votre deuxième album sort enfin et l'auteur Carla Bruni a totalement disparu. Il n'y a pas un seul texte signé Carla. Vous aviez peur de quoi?
Peut-être j'avais peur de décevoir en réécrivant en français. Je ne sais pas si c'était une peur ou un hasard. Mais c'est un album très naturel pour moi. Et donc en fait, c'est peut-être que j'avais pas trop de textes à écrire. On n'est pas toujours inspiré, on n'a pas toujours des choses à dire. Et quand on essaye de les dire, lorsque on n'est pas inspiré, elles tombent un peu à plat, en ce qui me concerne. Donc en fait, j'ai parlé avec la musique.
Les convictions en fait des autres.
Vous savez, pour moi, les textes, c'est assez important, même quand je les écris, mais pas tellement fondamental pour une chanson. Ce qui est fondamental, c'est que je trouve la chanson globalement, c'est-à-dire sa mélodie, son genre, son rythme, son mystère aussi. Et j'ai beaucoup aimé, lorsque je me suis formée un petit peu mon goût musical et artistique, donc à l'enfance, à l'adolescence, j'ai beaucoup aimé des chansons que je comprenais, comme des chansons de Lucio Battisti, de Georges Brassens, de Serge Gainsbourg, d'Ornella Vanoni, mais j'ai aussi beaucoup aimé des chansons que je comprenais pas du tout. Lorsque je ne parlais pas encore anglais. Donc en fait cet album il est fait dans une lignée de disques qui moi me tiennent à cœur, qui sont des disques simplement folk ou blues.
Avec une alchimie tendre, donc de séduction qui passe pas forcément par les mots.
Oui, moi je pense oui que les mots c'était par rapport aussi au fait de faire des chansons françaises. Et donc le fait d'écrire les textes, ça transforme les chansons en chansons françaises, puisque moi j'écris en français. Mais néanmoins, j'ai du plaisir aussi à écrire des chansons dans d'autres langues et à m'appuyer sur les mots des autres. Parfois j'ai du plaisir, lorsque je travaille par exemple avec Julien Clerc, à m'appuyer sur sa musique. Le travail que j'ai fait sur ce disque, c'est finalement...
Il est inverse là.
Ouais, c'est le travail que fait Julien Clerc depuis qu'il existe.
Vous avez exhumé des textes, tout de même, c'est pas anodin, du 19e et du 20e siècle, de grands poètes anglo-saxons que vous avez mis en musique. Mais pourquoi cette idée? Pourquoi être allé les chercher, eux?
Ah, je sais pas, je les ai pas cherchés avec une idée préconçue, je les ai plus trouvés, en quelque sorte, au hasard des pages, en lisant des recueils de poèmes. C'était pas tellement une idée. Et c'est une idée maintenant que je dois l'expliquer, mais au moment où j'ai fait les chansons, c'était aussi simple qu'un geste. C'est maintenant, à la promotion, que c'est devenu une idée. En fait, faut que je l'explique, ou que je le justifie, mais pour moi, c'était complètement spontané.
Alors, pour dire poème en anglais, très souvent on dit songs. Mm-hmm. C'était un signe pour vous, Carla Bruni?
Oui. Je pense que les poèmes sont des chansons, quelquefois plus denses, avec une... Oui, peut-être que je pense que les poèmes sont des chansons, qu'il y ait de la musique ou pas d'ailleurs.
Alors, il paraît que Marianne Faithfull, la grande muse, icône du rock des 60s en Angleterre, a sa petite part de responsabilité dans ce nouvel album.
Une assez bonne part, je dirais pas de responsabilité, mais de direction qu'elle m'a donnée, quoi. C'est-à-dire, Marianne m'a offert le premier recueil de poésie, de poèmes anglais de Shakespeare, oui, que j'ai lu. Et puis, j'ai travaillé avec elle sur la phonétique, sur le sens profond des textes, parce que lorsque je les ai mis en musique, etc., encore une fois, je l'ai fait sans vraiment réfléchir et elle m'a aidée après que lorsque les chansons étaient faites, elle m'a aidée à rentrer davantage dans ses poèmes.
Votre père composait des opéras, c'était un passionné de musique dodécaphonique. Votre mère, virtuose du piano, était concertiste. Vous avez grandi donc immergé dans la musique entre son Steinway et vos guitares. À l'âge de 15 ans, fasciné comme vous l'étiez par les Stones et puis par téléphone, vous êtes même allé frapper à la porte de Louis Bertignac, qui aujourd'hui est votre arrangeur. Alors comment se fait-il que vous ayez passé presque 14 ans à vous exposer dans une autre vie, donc la vie de mannequin, avant de faire enfin ce que vous dites aimer le plus au monde, c'est-à-dire faire de la musique?
J'avais envie d'être libre, j'avais envie de voyager, donc j'ai commencé le mannequinat beaucoup pour ça, pour partir un petit peu. Et les études impliquaient impliquait la vie familiale
et
le mannequinat.
Et vie sédentaire.
Et sédentaire. Et le mannequinat, c'était immédiat, c'était la liberté immédiate, l'indépendance. Et j'avais besoin de ça. Et après, j'ai été emportée dans la vague du mannequinat, parce que c'est un métier où j'ai eu beaucoup de chance aussi avec ce métier-là, puisque on est devenus célèbres, en fait, les mannequins. Ouais. Personne ne connaissait vraiment les mannequins avant. Et on les connaît pas tant que ça maintenant, à quelques exceptions près, mais de mon temps, on a eu ces longues carrières, plus longues que d'habitude, sans doute à cause de cette incroyable médiatisation que oui. Dont nous avons bénéficié. Donc pour rien, parce que quand on est mannequin, on ne fait que porter les créations des autres, ou même si bien les porter d'ailleurs quelquefois, mais disons que on est un support. Et donc le fait d'être si célèbre pour rien, juste pour notre image, c'était ludique, hein, parce que
c'était ludique avec peut-être un fond de culpabilité, parce que le métier de mannequin, il apprend l'artifice.
Ça, c'est vrai.
Bon, écrire et composer ses chansons, ça consiste au contraire à aller au plus profond, au plus vrai de soi.
C'est pour ça que c'est difficile expliquer.
Vous avez fait se succéder deux vies qui s'opposent. Alors comment peut-on être chaque fois totalement soi-même dans des vies qui s'opposent, Carla Bruni ?
Mais je ne tiens pas tellement à être moi-même. Je m'en moque un petit peu.
Ça, c'est une confession charmante.
Ouais, je ne sais pas si c'est si important. C'est un peu une chose de l'époque. Vous ne trouvez pas ? Vous êtes vous-même. Vous avez eu plusieurs vies aussi. On a tous plusieurs vies. On a notre enfant. On s'en détache jamais. On va assez vite à la tombe. Donc essayons de profiter entre ces deux segments, ce petit laps de temps. Moi, être moi-même, j'ai l'impression d'être moi-même. Parfois, je me demande même si je m'appelle comme ça. Vous voyez, parfois, je me demande pourquoi on a mis certains mots sur certains objets. Quand on se les répète longtemps, ils prennent une consonance un peu absurde. Mmh. Et on se dit que cette bouteille pourrait s'appeler Jmigla, par exemple. Et donc, c'est un peu le principe du non-sens. Il y a beaucoup de ça dans ces poèmes, d'ailleurs, la recherche du sens de l'existence. Et je ne sais pas si le sens de l'existence, c'est être soi-même.
Donc, vous avez une propension à l'adaptation assez phénoménale, en fait.
Oui, j'essaye de continuer. J'essaye de continuer.
Europe 1. Et restez avec nous, il n'y a pas qu'une vie dans la vie, spéciale Les Éblouissantes avec Carla Bruni. Reviens juste après ça sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Et cet après-midi sur Europe 1, c'est Carla Bruni qui se confie à Isabelle Morizet. Notre série d'été Les Éblouissantes continue jusqu'à 16h sur Europe 1.
Carla Bruni, il y a quelques années de ça, vous ne chantiez pas alors que vos amis les plus proches s'appelaient Eric Clapton, Mick Jagger, Jean-Jacques Goldman ou Louise Bertignac. Un petit peu comme si l'affectif, en fait, se mêlait à un travail d'entomologiste sur un milieu, en fait, dont vous vouliez tout découvrir avant d'y tenter votre chance. Comment vous expliquez ce phénomène-là ?
Peut-être
cette espèce de fascination, d'attirance par rapport à un univers bien précis.
C'est vrai. Peut-être aussi, j'étais curieuse aussi de vraiment attirée, quoi, finalement, par le milieu de la musique pop. Et curieuse de regarder ces gens-là travailler de près, ce que j'ai assez peu fait, parce que finalement, quand on est amis avec les gens, on veut plutôt dîner au restaurant avec eux que dans le studio où ils travaillent.
Enfin, j'imagine, par exemple, Eric Clapton, vous avez quand même dû le voir chanter dans des stades de 100 000 personnes.
Oui, je l'ai vu chanter, je l'ai vu composer. C'est passionnant. Ce qui est passionnant aussi, c'est de rencontrer ces gens qui ont eu des destinées si particulières et qui sont en même temps complètement simple et curieux de l'existence. C'est ça qui était assez passionnant. Puis c'est vrai que les concerts, les tournées, c'était marrant, surtout étant jeune fille. C'était amusant.
Alors, j'imagine que tout au fond de vous, alors que par exemple vous étiez cachée en coulisses, lorsque votre ami sur scène, lui, chantait devant 100 000 fans, j'imagine qu'il devait y avoir une petite voix qui vous soufflait qu'un jour, ce serait vous qui avanceriez sur scène pour vous emparer d'un micro.
Peut-être. Un jour, j'avais fait un rêve comme ça, où effectivement, j'étais en train de chanter sur scène. Et puis, en fait, derrière la scène, il y avait tous mes amis qui sont très bons chanteurs qui chantaient à ma place. C'était un chouette rêve. Je crois qu'il raconte un peu ce que vous dites. Peut-être au fin fond de mon inconscient, j'avais ce désir-là, mais en fait, je ne le sentais pas quand j'étais mannequin. Quand j'étais mannequin, je sentais le désir, un désir d'activité assez fort. J'avais besoin d'une vie pleine d'activité. Je ne sais pas si j'aurais toléré à 20 ans tout ce silence qu'il me faut, par exemple, pour écrire des chansons.
Aujourd'hui, pour composer.
Oui. Donc, je ne sais pas si j'aurais ressenti ça de la même façon.
Votre nouvel album, Carla Bruni, qui est vraiment l'événement musical de ce début d'année, qui est enregistré en anglais et qui a pour titre No Promises, va sortir dans quelques mois en Grande-Bretagne. Et puis ensuite, il y aura une sortie orchestrée sur tous les États-Unis. Alors, si l'Amérique est conquise, jusqu'où accepterez-vous que ça bouleverse votre vie ?
Si qui que ce soit est conquis, je pense que je peux facilement bouleverser ma vie. C'est vrai que avec les enfants petits, c'est difficile de partir longtemps, de faire des tournées ou des choses comme ça. Néanmoins, j'arrive pas à projeter cet album comme un album qui serait commercialement reçu dans tous les pays et tout ça. Mais si quelques personnes l'aimaient, je serais ravie d'aller faire des concerts, par exemple. Je pense pas que je ferais une tournée. J'arrive pas à projeter ça. Peut-être que si je devais aller aux États-Unis pour promouvoir cet album, s'il plaisait un petit peu là-bas, ou en Angleterre, peut-être je pourrais emmener mon petit avec moi, parce que finalement c'est quand même un bel apprentissage, les voyages aussi pour les enfants petits. Donc c'est vrai que mon fils, j'ai de la chance, il est pas encore à la grande école, comme on dit. Donc c'est peut-être encore le moment où je pourrais finalement emmener ma famille avec moi, et pour mon petit garçon, ça serait quand même très intéressant de voir tous ces pays étrangers qu'il ne connaît pas encore.
Et sa maman sur scène.
Ça, je ne sais pas si ça lui plaît beaucoup, j'ai l'impression qu'il trouve ça un peu obscène.
Votre mère, à vous l'avez vue souvent jouer en concert?
Oui, très souvent.
Ça vous impressionnait terriblement?
Terriblement, vraiment terriblement. Je suis très inquiète quand les gens vont sur scène, que ce soit au théâtre ou en concert, lorsque je les connais intimement. En fait, je suis bêtement... En ce qui concernait ma mère, j'étais inquiète. Je me souviens d'un concert au Théâtre des Champs-Élysées, tout près d'ici,
oui,
avec l'Orchestre de Paris. C'est-à-dire que c'était Grieg, je crois, et j'ai une espèce de terreur de la fausse note. Parce que vous entendez répéter les gens qui préparent les concerts.
Bien
vous
sûr.
Entendez jouer 8h, 9h par jour, donc je connaissais tout le morceau par cœur. C'est vrai que ça fait une terreur. Il y a aussi un silence dans les concerts de musique classique, un espace qu'il n'y a pas. Dans nos concerts à nous on arrive, on balance un petit peu la sauce, même dans mon cas, même si c'est très acoustique.
Et on va
très...
dire d'une manière peut-être un peu plus informelle et chaleureuse.
Voilà,
là, il y a une espèce d'austérité.
Exactement, il y a une certaine perfection.
De souci de la perfection.
Il y a la fausse note. Nous, on peut quand même faire des fausses notes.
Voilà, comme pour les divas.
Voilà.
Votre père, grand industriel, compositeur à 16 heures d'opéra, joué à Bergame, à Venise et à Paris, rêvait, paraît-il, d'être Stravinsky. Alors vous, Carla Bruni, quelle trace, quel sillon vous rêvez de laisser dans la chanson?
Oh, je sais pas, il y a tellement
Allez,
de gens que
j'admire. Il y a bien une petite ambition qui rôde, comme ça.
Ah, mais je suis très ambitieuse, mais je mets mon ambition dans mon travail, quoi. Je l'applique. Je ne la mets pas dans mes rêves, effectivement. Je pense qu'être ambitieux, c'est essayer d'avancer. Certains le font en rêvant. Moi, je n'ai jamais pu avancer en rêvant. J'ai avancé en me réveillant le matin et en allant dans le studio travailler. Voilà comment j'avance.
Et c'est le moment de retrouver Isabelle Morizet et son invitée Carla Bruni. Elle vous accompagne sur la route des vacances et du retour. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est jusqu'à 16h. Et c'est sur Europe 1.
Carla Bruni, qu'est-ce qu'il y a de définitivement italien en vous? J'ai presque envie de dire familièrement, où se cache la fibre ritale?
Alors, je suis très très bavarde. Et je suis très 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 italienne. Quand je vous vois parler là devant moi, je me dis que quand même vous aussi, hein, vous parlez avec les mains, quoi. Mais vraiment.
Mais j'ai
comme
des origines lombardes.
Et voilà. Donc italienne du Nord, toutes les deux. En vérité, voilà. Je me sens très italienne dans beaucoup de choses, notamment mon rapport aux autres, essentiellement.
C'est-à-dire
que, je me sens très ouverte aux autres. Je crois que c'est quelque chose d'assez italien. Très ouverte à la parole aussi. J'aime beaucoup, beaucoup communiquer, bavarder, polémiquer. Les Français aussi. Mais j'aime beaucoup le contact, en fait. C'est dans ça que je me sens le plus italienne, et aussi dans la gastronomie. Enfin, je ne suis pas un grand cuisinier, mais je trouve que notre gastronomie, la gastronomie française, est exceptionnelle. Mais la gastronomie italienne est...
Serait-elle méconnue?
Je dirais plus que méconnue, je crois que c'est la favorite du monde entier. Ouais, je crois que c'est la préférée du monde entier.
Bon. Carla Bruni l'a dit,
avec moi.
C'est donc forcément vrai. Carla Bruni, votre famille est issue de l'aristocratie piémontaise. Vous avez passé les 7 premières années de votre enfance dans une propriété d'une beauté rare. Hein. Une beauté rare et opulente, l'opulence baroque d'ailleurs d'un château régnant sur la campagne de Castagneto Pont, près de Turin, c'est ça? Alors quels émerveillements vous gardez de cette enfance dorée, mais très solitaire, paraît-il.
Oui, assez solitaire. Je regarde beaucoup d'émerveillements de mon enfance. Moi, j'aime assez la solitude. C'est vrai que ça peut paraître triste, mais en fait, non. Mon enfance, finalement, cette solitude a permis beaucoup, beaucoup de fantaisie. Donc, mon enfance, elle était pleine de rêveries et de fantaisie. Oui. C'est vrai, dans cette belle maison, mais... Parfois, quand je regarde les emplois du temps des enfants de maintenant, je les vois très très privés de rêves et de rêveries.
Ah, ils n'ont plus franchement le temps de s'ennuyer, hélas.
C'est dommage, c'est tellement agréable de s'ennuyer, et tellement agréable d'avoir du temps vide devant soi, notamment à ce moment-là de la vie,
oui.
Où on a le temps finalement encore.
Voilà, de se chercher et de se construire comme
ça. Et plus que ça, de rêvasser, d'utiliser sa fantaisie au lieu d'utiliser par exemple... les images, les choses comme ça. Donc mon enfance était une enfance désuète par rapport aux enfances qu'ont nos petits aujourd'hui. Mais je pense que ça a basculé après ma génération. Oui, je pense que nous avons encore eu des enfances relativement, les gens comme nous de notre génération ont encore eu des enfances relativement poétiques, pour dire que... Mais maintenant, c'est très, très, très fragmenté. Saccadé, ça ressemble un petit peu à un appareil pour zapper les chaînes. Et c'est angoissant, je trouve, pour les enfants de vivre comme ça. Tout le temps dans des activités sportives ou artistiques.
Et en plus, vous étiez à la campagne. Alors justement, grandir, en tout cas, je parle des 7 premières années, grandir dans un univers aussi privilégié, donc cette propriété magnifique avec forcément du personnel, des jardiniers, enfin toute une micro-société au service de ce domaine. Quel regard et puis quelle conscience ça fait naître, enfant, justement sur le fonctionnement de la société. Est-ce que vous aviez conscience, vous mesuriez les privilèges qui étaient les vôtres?
Oui, je les mesurais, absolument. Et évidemment, quand on est petit, on a toujours envie d'être comme tous les autres. Donc évidemment,
forcément.
Ça me gênait.
Voilà.
Mais franchement, c'est une petite gêne. Je pense que c'est une gêne beaucoup moins... humiliante que la gêne inverse qui est celle de ne rien avoir en étant entourée par exemple d'enfants bien lotis. Et alors là, ça doit être une grande humiliation parce que on le sent dans ses vêtements, on le sent dans ses loisirs, on le sent, là ça doit être terrible
mais
pour les
est
enfants
aussi
d'être
gâté,
mélangés. Ouais.
Quand on ne l'est pas du tout, hélas aussi, mais on apprend donc très vite enfant la hiérarchie de la société.
Oui, on l'apprend très vite, oui.
J'imagine que devoir quitter ce domaine pour échapper aux menaces d'enlèvement des brigades rouges de l'époque, ça a dû vous déchirer le cœur.
Pas vraiment, parce que nous retournions tout le temps en Italie quand même l'été, donc on ne l'a pas quitté définitivement
pour chaque vacances.
Et puis à cet âge-là, très étrangement, je n'ai pas senti la peur qu'avaient mes parents de tout ça. Moi, j'ai senti juste le grand amusement qui était de changer de pays, de changer de ville et... d'aller à Paris. Mes parents disaient toujours à quel point Paris est exceptionnel, à quel point Paris est unique au monde. Et ce n'est pas une ville comme Turin, Paris c'est Paris. Et voilà, j'étais assez... je n'ai pas été déchirée par... je n'ai pas été déracinée par ce déplacement. On s'est déplacés aussi tous ensemble, avec mes frères et sœurs, et mes parents bien sûr. Enfin, mon père est resté en Italie, mais il venait tous les week-ends. Et ma grand-mère aussi, et les gens qui travaillaient pour nous dans la maison sont venus aussi. Donc en fait, l'écosystème s'est déplacé...
Globalement,
et j'ai fait mes études jusqu'à la 4e à l'école italienne de Paris, donc j'étais entourée de camarades et d'amis italiens. J'ai passé ma première communion à l'église italienne de Paris qui est rue Jean Goujon, à quelques mètres d'ici. C'est là-bas où nous avons fait la messe pour mon père, la messe pour mon frère, donc nous avons été dans la communauté italienne quand même de Paris. Et donc ça n'a pas été un déracinement. Par ailleurs, je trouve que nous sommes très très semblables, les Français et les Italiens. Vous savez, Jean Cocteau
disait que les Français sont
des Italiens de très mauvaise humeur. De très mauvaise humeur,
ah,
pas
c'est
triste.
Ah, c'est de très mauvaise humeur.
C'est l'humeur, c'est pas le sentiment qui change, je crois. Je crois qu'il y a des coutumes dans les humeurs.
Et
nous
ça,
avons coutume d'être de bonne humeur.
Ça, vous l'avez vérifié, Carla Bruni?
Oui, je l'ai vérifié. En tout cas, j'ai l'impression que nous sommes des peuples cousins. Mais je dis peut-être ça parce que moi, je suis très cousine aux Français. Je suis aussi piémontaise. Vous êtes d'origine lombarde. Vous savez que le Piémont et la Lombardie touchent la France de tout près. C'est même des langues dans lesquelles le dialecte est presque français. Notamment le piémontais et le savoyard sont la même langue. On parle pareil à Chambéry ou à Annecy que dans la vallée d'Aoste ou à Turin ou à Courmayeur.
Donc vous êtes notre petite cousine. Alors, on parlait de la petite fille italienne qui est devenue une adolescente parisienne et qui a décidé, après le bac, de se lancer dans des études d'architecture. Mais dites-moi, vous n'avez pas été une étudiante très tenace, hein, très pugnace en architecture. Par quoi donc étiez-vous distraite ?
Quand on parlait tout à l'heure de l'ambition, c'est réellement ça que j'essayais de vous expliquer. D'ailleurs, je ne sais pas si j'ai réussi. C'est que pour moi, c'est une application, en fait. C'est avancer.
Oui.
Et donc, les études, ça me mettait dans une parenthèse. Mais je ne suis pas une grande étudiante non plus. Hein. J'ai jamais beaucoup aimé ça. Ça me mettait dans cette parenthèse, vous voyez. Évidemment, si j'avais pu avoir mon diplôme d'architecte tout de suite, j'aurais adoré faire ce métier-là. Quel beau métier. Mais je n'ai pas eu la patience.
Alors, c'était une histoire de paresse ou d'impatience ? D'impatience.
D'impatience et de... Ce n'est pas vraiment mon truc, les études. Je dois le dire, j'ai passé le baccalauréat pour pas que mes parents se fassent harakiri, mais sinon, vraiment, les pauvres, vous avez l'air tellement désappointés. Mais ce que je voulais, moi, c'était de l'action.
Europe 1. Et oui, vous êtes bien sûr Europe 1, bon week-end. Ne bougez surtout pas. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, c'est avec Isabelle Morizet et Carla Bruni, de retour dans un court instant. A tout de suite. Et grâce à Isabelle Morizet, on en sait un peu plus sur ces femmes remarquables. Cet été, Isabelle Morizet leur rend hommage. Vous avez d'ailleurs croisé ces dernières semaines Juliette Binoche, Christine Scott Thomas, Sandrine Bonner ou encore Carole Bouquet. Vous écoutez Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, spéciale Les Éblouissantes, épisode 11, avec cet après-midi Carla Bruni.
Carla Bruni, comment l'opportunité du mannequinat est-elle entrée dans votre vie ?
C'était une amoureuse de mon frère qui s'appelle Francesca, et elle était mannequin chez Elite. Elle n'arrêtait pas de me dire que je devrais essayer. Donc un jour, je l'ai pris au mot et je me suis présentée. Donc, j'ai eu une liste d'agences et je suis allée dans une agence. Donc ce n'est pas une opportunité qui s'est présentée, je suis plutôt allée le chercher. Je suis allée dans une agence, j'ai eu la chance d'être prise et j'ai commencé à travailler tout de suite.
Vous avez toujours eu la chance, en fait, d'être entendue lorsque vous voulez quelque chose, Carla Bruni.
Je suis beaucoup plus acharnée. Je suis plus acharnée qu'il ne le semble. Ça ne se voit pas comme ça, mais je travaille beaucoup plus que j'en ai l'air, sans doute. Donc, c'est surtout que je vais vers les choses. Ce que vous dites, c'est assez juste. Je crois que si je devais me trouver une seule qualité, ce serait celle de la volonté.
De la constance.
De la constance et de la volonté. Mais par contre, je connais bon nombre de filles, par exemple, dans le mannequinat, qui ont été trouvées dans la rue, sur la plage,
oui,
etc. Et moi, ça m'est jamais arrivé, mais pour rien. C'est-à-dire, j'ai fait mon disque, on n'est pas venu vers moi. J'ai eu Bertrand Delabbé, mon agent, qui est fondamental pour moi, mais j'ai dû aller vers... Je dois toujours aller vers les gens.
Vers les autres.
Ouais, je suis bien obligée.
Pour leur prouver à la fois
vos envies. On m'a pas proposé des chansons un jour
et
pour que je les chante. Ça m'est jamais arrivé, par exemple.
Pour en revenir à l'époque du mannequinat, la photo de la carte orange sur laquelle le booker d'une agence de mannequins vous avait repéré, c'est une légende ou c'est une réalité ?
Non, c'est vrai, j'avais pas d'autre photo.
Vous aviez laissé votre carte orange ?
Non, mais vous voulez voir comment je suis arrivée physiquement à l'agence ? Il y a toujours une grande différence entre un physique et une photogénie.
Oui.
Donc quand je suis arrivée à cette agence qui était l'agence City, qui existe toujours, excellente agence parisienne, la jeune femme, c'était une jeune femme, la bouqueuse en chef qui s'appelait Frédérica. Donc Freddy a regardé, a voulu voir de quoi j'avais l'air en photo. C'est obligatoire, oui, quand on est mannequin, on peut pas commencer. Il y a des filles qui sont absolument charmantes dans la vie et qui ne prennent pas forcément bien la lumière.
Et là, la photomaton a fait l'affaire.
C'est-à-dire que la photomaton vous donne le minimum syndical. C'est comme un peu une maquette, en fait. Si vous êtes pas mal avec la photomaton, ça veut dire que
pas très flatteur.
Voilà. Et si la chanson tient dans la maquette où il y a qu'une guitare et qu'une voix, ça veut dire qu'elle tiendra après orchestrée, quoi.
Et c'était le cas. Bon, alors, vous dites qu'être mannequin, c'est un métier extrêmement physique au sens sportif du terme.
C'est physique, c'est du matin au soir, c'est physique, oui, je dirais pas sportif, parce qu'il n'y a pas d'entraînement, et il n'y a pas un tel niveau de capacité physique.
En tout cas, lorsqu'on est top modèle, on passe son temps dans les avions.
C'est un métier de résistance.
Voilà, pas évident.
C'est un métier vraiment de résistance. J'ai remarqué, j'ai rencontré des filles d'une beauté extraordinaire quand j'étais mannequin, mille fois plus belles que toutes les filles qui travaillaient à ce moment-là. Et elles ne tenaient pas une semaine parce qu'elles ne résistaient pas. Ce n'étaient pas les plus belles qui travaillaient, finalement, c'est les plus résistantes.
C'est drôle parce que vous avez affirmé justement que, en fait, une grande beauté ne suffisait pas à devenir top modèle.
Ah non.
N'est-ce pas ?
Non, certains critères, il faut certains critères alors, qui ne sont pas ceux de la beauté.
Alors justement, en plus de la résistance, pour rentrer dans ce club vraiment ultra fermé des tops dont les cachets sont vertigineux et qui sont jamais plus de 6 ou 7 filles par génération, qu'est-ce qu'il faut comme qualité ?
Comme qualité physique, vous voulez être comme
non, pas
comme
forcément.
Particularité.
Non, belle, c'est évident. Résistante, volontaire, mais
résistante, volontaire et peut-être un petit peu dur à cuire, quoi, comme on dit. C'est-à-dire, je ne sais pas si la fragilité et l'ultra-sensibilité peuvent résister longtemps. De la résistance. Moi, j'étais très sensible, mais très résistante et surtout déterminée. Je crois que la détermination, la personnalité et la volonté font tout dans tout, même dans les métiers qui paraissent liés au talent. Je crois que c'est ça qui fait la différence finalement.
Vous vous souvenez, Carla Bruni, du jour où vous êtes dit « j'arrête, définitivement j'arrête, je ne monte plus jamais de ma vie sur un podium ».
Mais je dois vous dire, vous savez, je me dis peu de fois ces choses-là, parce que j'arrêterai quand je serai dans la petite boîte, globalement. Mais peut-être que j'irai sur un podium à 50 ans. Tant que c'est pas vraiment fini, je mets pas la fin avant moi. Eux, ils m'ont arrêté, les couturiers devaient travailler avec des nouvelles...
Ah, vous dites que ce sont eux, en
oui,
fait.
Oh oui.
Il y a une espèce de désamour, tout à coup, de lassitude.
Moi, je ne ferai pas le geste d'arrêter.
Parce que vous voyez trop... Dans le monde entier. Vous étiez sur les couvertures
beaucoup,
de tous les magazines.
Et surtout, ça faisait des années qu'on travaillait avec eux. Il faut quand même changer de temps en temps pour eux. Il faut changer, il faut une nouvelle fraîcheur, des nouveaux visages, des nouvelles personnalités. C'est compréhensible. Les couturiers sont soumis à des rythmes d'une cruauté extraordinaire. C'est comme si c'était des artistes qui doivent pondre quelque chose tous les 3 mois. Mmh. Et s'ils ne le pondent pas, c'est out. Ça veut dire qu'on ne résiste pas longtemps si on ne se plie pas à cette loi. Finalement, ce sont des artistes, les seuls artistes qui se plient aux lois de commerce. N'importe quel peintre, n'importe quel sculpteur, n'importe quel chanteur peut avoir une panne et dire « je n'arrive pas à produire ce que je voulais faire et il me faut du temps ». Mais eux, non. Non, eux, ils ne peuvent pas. Donc c'est normal qu'ils aient besoin de nourrir, de changer, de nourrir leur inspiration avec des nouveaux visages. Donc, en fait, moi, je n'ai pas décidé particulièrement d'arrêter. Comme je vous dis... C'est une philosophie que je n'applique pas dans la vie. J'arrêterai quand j'aurai plus le choix. Je sais pas si vous voyez. Pareil pour l'amour, pareil pour la chanson, pareil pour la liberté. Tant que j'ai mes deux jambes qui me portent, je continuerai à marcher. Tant que j'ai mes deux bras, je continuerai
à... Mais enfin, vous avez quand même, avec une philosophie extraordinaire et un bel appétit, vous avez décidé de faire autre chose. Alors, il faut pas seulement de la lucidité pour tout de même partir avant que l'histoire ne s'abîme. Il faut du courage. Parce que lorsque vous avez arrêté, vous étiez encore...
Mais on n'a pas
que
le choix.
Vous disiez très demandé. Vous aviez tout juste 30 ans. Vous aviez déjà, curieusement, une longue vie derrière vous. Si jeune pourtant. Vous n'avez pas eu tout de même la peur de ne plus réellement exister après. De ne pas savoir désormais pourquoi réellement vous alliez vivre.
Si, j'ai eu un passage à vide assez majeur qui a duré quelques petites années. Mais vous trouvez...
Quelques années ?
Ouais. Oh oui. Mais vous vous trompez, hein. J'étais plus demandée et par exactement plus ou moins la même chose pour toutes les... Évidemment, on avait encore des formidables bookings de mannequins. Mais avant, c'était tous les jours. Et soudainement, ça a été une fois tous les 2-3 mois. Ça, c'est arrêté, vous savez. Si tout d'un coup, on vous enlève votre émission et que vous l'avez une fois par an, c'est arrêté. Hein, parce que c'est pas la même chose. D'accord, alors d'accord, vous pouvez vous dire, oui, j'ai encore 3 miettes, d'accord. Mais bon, moi, c'est pas tellement... J'ai pas tellement envie d'être mortifiée, quoi, si vous voulez. Donc, la décision de l'arrêt, elle était simultanée avec leur désir d'autre chose, quoi, de tout ce milieu. C'était pas très facile, mais c'était édifiant comme expérience.
Alors, vous en avez profité très vite pour vous mettre à écrire.
Oui. J'écrivais toute la journée et j'avais besoin de ce temps. J'étais heureuse de plus avoir ces journées pleines de courses. Quelque part, j'étais heureuse. Même si j'étais inquiète par le vide, j'étais quand même assez heureuse.
Oui, parce que dans les moments de doute, par exemple, pendant que les collections battaient leur plein avec toute la planète mode qui débarquait à Paris, ceux qui faisaient partie de votre carnet d'adresses, les amis, vous qui étiez dans la solitude de votre appartement en train de griffonner des textes, qu'est-ce que vous répétiez pour ne rien regretter ?
Je regrette pas.
Puisque vous ne
beaucoup.
Saviez pas encore que la prochaine vie allait être plus flamboyante.
Mais je crois qu'on est toujours dans la vie qu'on a. Je suis pas sûre. C'est vu du dehors que ça semble comme ça, vous voyez. Mais moi, finalement, j'étais dans cette vie. Donc, j'étais effectivement un peu déstabilisée par le changement de métier et le changement. Mais en même temps, dans une expérience, quoi. Déjà, je vivais au même endroit tous les jours. C'était stupéfiant. J'avais pas fait ça
pour un petit
l'âge de 16 ans.
Depuis
l'âge de 16, 17 ans, je l'avais pas fait. C'était, et il y a aussi des choses qu'on tisse en vivant comme ça et qu'on ne peut pas tisser autrement. Oui. Donc, finalement, cette espèce de vie de voyage, on voyageait autant qu'une hôtesse de l'air, par exemple. C'était une vie de voyage. On peut pas travailler comme mannequin si on n'accepte pas les voyages. C'est des voyages constants, 5 ou 6 fois par semaine. Donc, par exemple, ça, c'était un soulagement de l'arrêter. C'était un soulagement d'arrêter aussi tout le temps d'être photographié, parce que c'est un peu, même si on aime ça, si on aime être reconnu, si on se sent, exister finalement, oui. C'est quand même toujours un peu gênant, parce que on s'y retrouve jamais quelque part. Donc j'étais aussi heureuse d'arrêter cette espèce de quête pour réunir ce que j'étais et l'image qui paraissait de moi, qui est une quête que j'ai vraiment laissée tomber, et donc dont j'avais besoin jeune fille pour être reconnue. Ouais. Donc j'étais aussi soulagée de me détacher de ça, J'étais soulagée aussi de me détacher de l'obsession physique. Est-ce que c'est un métier qui ne tolère pas l'âge, je dirais même pas l'âge mûr, parce qu'à 30 ans, on est une jeune femme, une toute jeune femme. Mmh. L'âge, tout simplement. Donc, comme le métier d'actrice, un petit peu, qui est un métier... Donc, je suis contente aussi d'être passée dans un endroit où je pourrais vieillir, par exemple. Comme j'avais 30 ans et j'avais été tellement photographiée, de ça, j'avais l'impression d'avoir 120 ans par rapport aux jeunes mannequins, à la nouvelle garde qui arrivait. Ça a été quand même une espèce de soulagement. Pouvoir écrire, pouvoir vivre tranquillement, pouvoir tisser des liens, pouvoir vivre au même endroit. Toutes ces choses qui paraissent peut-être monotones aux yeux des autres, moi, m'ont paru profondes à ce moment-là de ma vie. Et c'est aussi avec ça que j'écris. Hein, c'est-à-dire
vous avez gardé quelques rares amis de votre vie d'avant, Carla Bruni, ou bien les gens de la mode sont trop préoccupés d'eux-mêmes, finalement, pour vous suivre dans un monde qui n'est pas le leur?
Nous sommes tous préoccupés de nous-mêmes, pas plus dans la mode qu'ailleurs. Peut-être le monsieur à la régie, il est très préoccupé de lui-même, là. Et je l'espère. Tout le monde vaut d'être préoccupé par soi-même. Dans la mode, il y a une réputation très artificielle que je combats, parce que j'ai vécu dans le monde de la mode pendant des années, et c'est une apparence.
De l'extérieur, on exagère la réalité?
Je crois surtout que de l'extérieur, on exagère la partie superficielle. C'est une chose superficielle, d'ailleurs, à faire. Que d'exagérer la partie superficielle des autres. Si on va voir de près, par exemple, comment est le monde de la mode, c'est par exemple un monde de travail acharné. Les petites mains, les premières d'atelier, c'est des travaux d'équipe, les coiffeurs, les maquilleurs, ça bosse. On dirait que ça bavarde toute la journée, je peux vous dire que ça bosse. Ça, personne ne le dit. Par ailleurs, l'artificiel, la superficialité qu'il y a dans le monde de la mode est remarquablement assumée. Donc, elle donne lieu à une certaine profondeur, je trouve. C'est quand même assez profond de dire « je suis complètement superficielle ». Déjà, ça dénote qu'on a un recul sur soi, c'est pas donné à tout le monde. Donc, c'est un milieu qui a un recul sur lui-même, qui n'est pas dupe de lui-même. Et qui, en même temps, peut vraiment s'effondrer pour une ceinture ou une paire d'escarpins. Parce que c'est cela qu'il fallait.
Dans l'hystérie.
Dans l'hystérie, effectivement, dans le mouvement, etc. Mais quand même, je trouve réellement que mes amitiés, en tout cas, je constate que mes amitiés sont... En fait, antérieure au monde de la mode. Finalement, les amis que j'ai, ce sont presque que des gens que j'ai rencontrés à 14 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, à 18 ans. Et puis évidemment, au fil du temps, à la trentaine, à 25 ans, je suis très amie avec Karen Mulder, qui était mannequin au même moment que moi. J'ai une autre amie, Nadège, qui est mannequin, qui habite Milan, qui n'est plus mannequin maintenant, qui est maman de 3 garçons, mais avec laquelle je parle tout le temps. J'ai revu Karl Lagerfeld à l'occasion de certaines photos au printemps. C'est une personne avec qui je ne suis pas amie à proprement dire, parce que je le vois pas souvent. Mais c'est une personne exquise. J'adore Azdine Alaïa, John Galliano, Jean-Paul Gaultier. Je les ai croisés 1000 et une fois depuis que j'ai arrêté d'être mannequin, toujours avec la même chaleur. Je suis toujours invitée au défilé. Donc, les peu de liens que j'ai tissés, mon amie Farida Khalfa aussi, qui a longtemps travaillé à la muse de Jean-Paul Gaultier, mais aussi d'Azdine Alaïa, de Gaultier, mais aussi, Voilà, donc j'ai gardé beaucoup de liens du monde de la mode. C'est un monde marrant. C'est un monde qui ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Et je trouve ça pas désagréable.
Juste une petite question avant une pause, une courte pause, parce qu'on va se retrouver tout de suite après avec Carla Bruni, mais avant la sortie officielle de votre tout premier album, est-ce que vous leur avez envoyé à toutes ces personnes que vous venez de citer ?
Je ne leur avais pas tout à fait envoyé, mais je l'ai envoyé à quelques-uns. J'essaie de me souvenir.
La première personne
j'essaie de
à qui vous avez adressé le premier
sans
album.
Sans doute M. Saint-Laurent, parce que je parle de lui.
C'est
dans
M. Saint-Laurent.
Oui, sans doute.
Et un bon week-end sur Europe 1, vous êtes avec Isabelle Morizet et aujourd'hui Carla Bruni. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, les éblouissantes, suite et fin, c'est maintenant.
Carla Bruni, votre sœur aînée Valeria Bruni Tedeschi est actrice et réalisatrice. Est-ce qu'elle fait des choses que vous seriez incapable de faire ? Et inversement ?
Oh, je crois, oui. Moi, je serais incapable d'être actrice. Et en plus, ça ne me plairait pas du tout. Je pense que Valeria ne serait pas naturellement chanteuse, effectivement. Elle n'est pas naturellement dans la musique. Elle est une grande mélomane, mais elle n'y va pas spontanément, même si elle adore ça. Finalement, elle adore l'émotion, la vibration de la musique. Mais elle retient guère, elle restitue peu, et elle est une grande, très très bonne pianiste. La lecture, par exemple, ce que moi je suis incapable de faire. Donc nous sommes vraiment sur des terrains différents. Moi, je pourrais pas du tout être actrice et encore moins cinéaste. Je trouve ça d'une difficulté terrible.
Vous auriez peur de vous abandonner aux convictions, aux émotions des autres ? Dans des rôles de comédienne.
Oui, et puis par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple, vous disiez être soi-même, etc. Alors, je tiens pas particulièrement à être moi-même tout le temps. C'est pas que j'ai besoin de me dire, tiens, je suis Carla ou quelque chose comme ça. Mais alors, avoir un autre prénom, avoir une autre vie sur chaque film, tout ça, ça me déstabiliserait. Peut-être que je suis pas tellement moi-même, finalement. En tout cas, je suis pas assez solidement moi-même pour faire ce métier-là. Ça me déplairait beaucoup. Pour moi, ça ressemble à la schizophrénie. La double personne, ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. Ouais.
Alors, la même année, en 2004, votre sœur a été nominée au César dans la catégorie meilleure première œuvre pour son film « Il est plus facile pour un chameau ». Et vous, Carla Bruni, vous avez obtenu une victoire de la musique pour votre premier album « Quelqu'un m'a dit ». Justement, qu'est-ce qu'on se dit entre sœurs quand on se retrouve après tout ça au cours du premier déjeuner en tête-à-tête ? Ça doit être chouette.
C'est sympa. Avec ma sœur, nous avons une grande, grande habitude de fou rire. Mais de fou rire. Hein. En fait, on est tellement intime que...
Vous étiez les premières de la classe.
On passe assez peu...
Toutes les deux.
Elle était la première de la classe. Moi, jamais première de la classe.
Oui, mais là, avec votre victoire de la musique et elle, sa nomination au César, soudain, c'est une reconnaissance, un adoubement pour vraiment chaque catégorie professionnelle.
Ouais.
Est-ce que votre papa a assisté à ce triomphe-là ?
Non.
Il n'était plus là,
depuis de nombreuses années.
Et quel genre d'émulation existe entre vous, entre Valeria et vous, Carla Bruni ?
Nous sommes très différentes et une espèce d'intimité absolue en même temps, de grande... Nous avons évidemment des points communs très très forts que fait la toute petite enfance. Donc entre nous, il y a beaucoup de discussions, très 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 peu de conflits, beaucoup d'échanges. Je ne sais pas si je pourrais vivre sans ma sœur, par exemple. C'est une chose qui me paraît impossible, vous voyez, de que ma sœur ne soit pas là ou qu'elle habite dans un autre pays même... nous sommes extrêmement proches. La seule chose que j'ai jamais fait avec ma sœur encore, c'est travailler. Et ça, j'aimerais bien. J'essaye de la convaincre de faire une comédie musicale. Comme ça, je pourrais faire les chansons. Je trouve les comédies musicales merveilleuses assez peu fréquentées par le cinéma.
Donc on peut espérer une comédie musicale dans quelques temps, ou même quelques années, mais signée par les sœurs Bruni Tedeschi.
J'aimerais bien que ma sœur, parce qu'on fait la comédie musicale, on l'a fait sur un scénario finalement, donc il faut que le scénario soit là pour que les chansons partent d'une histoire, mais non, elle veut pas, elle pas tout de suite, elle a ses choses à écrire, elle a ses choses, sa manière d'avancer.
Pas tout de suite, mais plus tard.
J'espère beaucoup, beaucoup. J'adorerais travailler avec ma sœur. Elle est si drôle.
Alors, quand vous étiez mannequin, vous aviez des admirateurs. Aujourd'hui, vous êtes chanteuse et vous avez un public. Et un public, c'est exigeant, c'est bien plus complice un public. C'est un petit peu comme une grande famille qui vous choisit. Depuis qu'il vient vous écouter en concert, parce que vous en avez fait pas mal des concerts depuis 4 ans, Carla Bruni, qu'est-ce qu'il a transformé en vous, ce public ?
Oh, énormément. Il m'a donné cet incroyable plaisir, cette espèce de plaisir Je connaissais pas, moi, je n'avais que la peur, en fait, hein, de chanter devant les gens jusqu'au moment du disque. Je pensais, c'était même une des raisons pour lesquelles j'avais pas chanté plus tôt, c'est que j'imaginais jamais pouvoir dépasser, finalement, cette peur. Mmh. J'ai imaginé ne pas pouvoir la dépasser. Et puis après, avec le temps, on y va même si on a peur, finalement. Je crois que c'est ça, la vérité, c'est qu'on démystifie la peur, on sait qu'on va pas mourir de peur. Mais les premières scènes étaient, les premiers concerts étaient... pour moi, saisissant de peur et de bonheur, quoi.
D'abord de peur, puis de bonheur.
Très, 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 très vite de bonheur et d'abord une peur indescriptible juste avant et après beaucoup de bonheur. Donc les gens qui m'ont fait l'honneur de se déplacer et de venir à mes concerts m'ont enseigné ça, m'ont enseigné que la scène, c'était enfin un plaisir quand même incomparable. Je vois pas ce qu'on pourrait comparer à ce plaisir-là. Quel que soit d'ailleurs ce qu'on fait sur scène, que ce soit du théâtre, des chansons, et les comiques, ils doivent avoir un plaisir fou, non ? D'entendre une salle rire, vous vous rendez compte ? Mais rire aux éclats, faire rire les gens, c'est... Même une fois, ça suffit pour toute la vie, j'imagine.
Carla Bruni, quand on est capable d'envisager une seconde vie, comme vous l'avez fait, on est capable certainement d'en envisager une troisième. Ça pourrait être quoi à 50 ans ? Anticipons. De beaucoup, hein, parce que vous en êtes loin.
Je pensais faire des études de chirurgien neurologue, mais
voilà.
C'est peut-être un peu tard. Je sais pas, j'aimerais bien faire... Si je changeais de métier... Bon, je suis très accrochée à la musique, je dois dire. Mais si je changeais de métier... maintenant, on vit jusqu'à 100 ans, donc on a peut-être 30 ou 40 ans, qui sont des années moins physiques, moins... où on n'a peut-être pas envie...
Et plus cérébral.
Plus cérébral, oui. J'aimerais bien faire quelque chose qui se désintéresse complètement de moi. Là, j'ai besoin de moi encore pour faire les chansons, parce que je les écris avec moi, vous voyez.
Mais et nous, on a envie de vous.
Et ah bah si vous avez envie, ça c'est irrésistible.
Alors justement, le nouvel album vient de sortir, il a pour titre No Promises, il rend hommage aux textes de grands poètes anglo-saxons du 19e et du 20e siècle. Carla Bruni, parmi les vers que vous avez mis en musique... Quels sont ceux que vous auriez tant aimé avoir écrits ? Vous avez certainement des préférences.
Oh oui, j'ai beaucoup de préférences. Il y en a un qui dit « Je cherche le visage que j'avais avant que le monde ne soit fait. » Ou alors, si on veut être comme le grand poète franco-libanais Fouad des Lettres, grand traducteur de Yitz, si on veut être plus précis, « Je cherche le visage que j'eus avant que le monde ne fût. » Mais moi, je dirais « Je cherche le visage que j'aimais avant que le monde ne soit fait. » J'adore cette phrase. Avant que le monde ne soit fait, ça veut dire quoi ? Tout et rien, peut-être ?
Voilà. Donc on est en apnée.
En apnée.
On est en apnée. Hélas, l'heure vient de s'écouler. Merci infiniment.
Merci de m'avoir
d'être
invité.
Venue nous rejoindre, merci. Carla Bruni. Et puis on ne se quitte pas tout à fait, puisqu'on va partir avec vous en musique.
Merci beaucoup encore. Merci.
À bientôt.
À bientôt.
On m'a dit que j'ai un corps parfait. J'ai du chien, on me trouve belle, en guépier ou tailleur chamel. Dès que je souris, les canards sont ravis. Le petit oiseau va sortir dans elle, alors que pour moi, l'essentiel la même. Si je suis top, ne soyez pas myope, et vous verrez.
C'était Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, spécial Les Éblouissantes avec Carla Bruni sur Europe 1. Ça vous a plu ? Retrouvez l'interview qui est disponible comme d'habitude sur europe1.fr. Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, de retour demain à 14h avec l'actrice et chanteuse Jen Berking. Restez avec nous, votre après-midi continue avec l'émission de vos vacances, Culture Culte, avec Carte Zéro qui reçoit aujourd'hui le romancier, réalisateur et philosophe Éric Emmanuel Schmitt. A tout de suite sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.